fréquence protestante. Parcours culturel. Robert Philippoussi.
Bonjour, bienvenue sur notre émission désormais quasiment routinière, mais en tout cas mensuelle, le premier samedi du mois à 16h15 en direct et puis rediffusée. Parcours culturel, une émission chapeautée par l'Atelier protestant, qui est l'organisme culturel de l'Église protestante unie en région parisienne, et aussi la Maison fraternelle, qui est un lieu d'église dans le 5e arrondissement, mais qui est aussi une ruche associative avec de nombreux artistes et créateurs qui y passent, mais aussi beaucoup d'activités en lien avec l'Église. Chaque mois, nous recevons des gens engagés. Alors, ça a l'air un peu vague comme ça, mais particulièrement engagés. C'est déjà un peu moins vague. Et particulièrement engagés dans leur pratique et leur art, leur pratique artistique en général. Nous avons reçu des gens intéressés par la cinéphilie dernièrement, qui ont organisé le festival du film de l'Auditoire, un festival protestant. Nous avons reçu une artiste peintre et des artistes des arts décoratifs. Et aujourd'hui, nous recevons une personne qui s'appelle Fanny Cousseau, que je salue et que je me demande peut-être d'exprimer déjà une voix.
Oui, bonjour Robert et merci beaucoup pour votre invitation.
Ben, je vous en prie, c'est moi qui suis vraiment très honoré parce que je reçois ainsi encore une personne que je connais un peu, hein, qui est particulièrement engagée dans son art. Alors cette émission en général se distingue un petit peu en deux parties. La première partie, on pourrait l'intituler « Les choses qui vous ont faites ». Et la seconde partie, très simplement, hein, c'est pas très intellectuel ce que je dis, les choses que vous faites. Ce qui m'intéresse, moi, c'est, je trouve qu'une des phrases les plus intéressantes, c'est que fait-on ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Qu'est-ce qu'on est en train de produire ? Qu'est-ce qu'on est en train de créer ? Qu'est-ce qu'on est en train de donner ? Donc, on va commencer donc par votre parcours, si vous permettez, Fanny. Alors, bon, vous êtes là, et on va dire, et si je vous pose déjà peut-être la question de maintenant, une question peut-être un peu provocatrice, j'ai envie de vous demander quel est votre métier.
Alors, je suis musicienne, je fais de l'orgue. Alors, c'est vrai que musicien, ça peut être un métier extrêmement large, et je sais que, en tout cas, pour vraiment m'épanouir pleinement, j'ai besoin de ne pas uniquement faire de la musique, mais aussi de pouvoir faire d'autres activités autour. Voilà, peut-être je pourrais en parler plus en
bien
détail
sûr.
Après.
Mais là, bon, maintenant, on va rétro-pédaler, on va aller plus haut, plus loin, plus profond. Moi, je m'intéresse beaucoup, je me demande comment les... si on peut appeler ça d'un grand mot les vocations, ou comment les envies, en fait, naissent dans le parcours de quelqu'un. Donc, peut-être, je ne sais pas, peut-être que n'avez-vous pas toujours voulu faire de la musique, mais en tout cas, qu'est-ce que vous pourriez dire de cette sortie vers la musique dans votre existence, Fanny ?
Oui. Alors, mon père était professeur de guitare, guitariste, enfin voilà, c'était son métier. Oui. Ma mère et mon frère ont aussi fait un peu de piano, un peu de guitare, donc depuis que je suis petite, j'ai toujours été baignée dans un univers musical. Donc, c'est un peu tout naturellement que je me suis mise, j'ai commencé par le piano. Ensuite, je suis rentrée au conservatoire du 13e arrondissement à Paris, où j'ai rencontré ma première professeure de piano, Karine Larifian, qui a vraiment eu un fort impact.
Vous pouvez redire le nom ?
Oui, Karine Larifian.
Voilà, et puis pour des personnes qui ne seraient pas familières de l'âge auquel on entre au conservatoire, donc quel âge aviez-vous à peu près à cette période ?
Alors, j'avais, je pense, 8 ou 9 ans. Alors, en fait, il y a différents conservatoires. Il y a les conservatoires, par exemple, d'arrondissement ou même les CRR qui acceptent des petits, des jeunes élèves. Et il y a aussi les conservatoires nationaux supérieurs où là, voilà, c'est vraiment des personnes qui décident de se consacrer professionnellement à la musique.
Donc vous étiez dans un environnement... D'accord, excusez-moi de vous avoir interrompu. Non, c'est moi. Précisons à l'auditeur que nous sommes tous à distance. Hein. Emmanuel qui est à la technique, Fanny qui est mon invitée et moi-même, nous sommes tous les trois dans trois lieux différents. Donc c'est, mais quand même, on y arrive. Vous avez été, je le fais un peu en mode rêverie, un petit peu mythique, vous avez été donc baignée dans de la musique très, tout petite déjà, oui. Vous avez été influencée dès le berceau. Quel type de musique résonnait dans votre maison ?
Alors, mes parents écoutaient surtout de la musique classique et un peu de chansons françaises, mais c'est vrai que les musiques actuelles, c'était pas du tout, ça faisait pas partie de leur répertoire. Et après, en grandissant, j'ai découvert qu'il y avait un peu d'autres styles de musique, pas que la musique classique. Hein. Mmh. Et maintenant, je trouve que c'est très important et que c'est presque même un devoir d'écouter ce qui se fait actuellement. Alors, je ne fais pas que par obligation, je fais aussi par plaisir, bien sûr. Mmh. Mais je trouve que c'est très intéressant de découvrir peut-être la musique, en tout cas que moi je ne vais pas jouer à l'orgue, hein, mais ce qui se fait et ce que la plupart des gens écoutent, parce que bon, c'est vrai que la musique classique, tout le monde n'en écoute peut-être pas.
Bien sûr.
Donc voilà, j'essaye d'écouter un petit peu de différents styles de musique.
Donc pendant tout ce temps, je pense qu'à cette époque, on commençait aussi par le solfège avant d'aborder un instrument, ou je me trompe ? C'est une image faussée que j'ai. Peut-être dans le 13e arrondissement, on faisait autrement, si ça se trouve.
Alors, je ne me souviens plus exactement si j'ai commencé le solfège. Je pense que j'ai commencé le solfège avant le piano. Mais j'ai vraiment eu la chance d'avoir aussi là un très bon professeur. Benoît Menute, qui est d'ailleurs un super compositeur, et d'autres professeurs, bien sûr, Pierre Chepeloff, etc., qui sont aussi compositeurs et du tout. Et bon, je ne vais pas faire la liste parce que ce n'est pas forcément des. Voilà. Mais ce sont des personnes qui cherchent vraiment à relier le solfège à la musique. C'est-à-dire qu'ils ne font pas juste de la lecture de notes bêtes et méchantes. Voilà. Je me souviens que vraiment pendant les cours, on écoutait. On écoutait du Beethoven, du Mozart, du Stravinsky, mais aussi des compositeurs vivants, aussi du rock, aussi des fois du jazz, et qu'en fait, vraiment, on cherchait à, enfin, ces professeurs cherchaient à nous inculquer à nous donner envie, en fait, de faire de la musique, et vraiment, je les remercie parce que je pense que si j'avais pas rencontré toutes ces personnes, j'aurais peut-être pas continué à faire de la musique. Donc,
ouais. Oui, on pourrait, je ne sais pas si le temps imparti de notre émission va le permettre, mais on pourra imaginer un univers parallèle de Fanny Cousseau pour voir ce qu'elle aurait fait si elle n'avait pas fait de musique. Donc là, vous avez le piano, vous l'avez choisi, vous l'avez à 8 ans, vous avez voulu, vous avez dit à vos parents, à vos professeurs, je veux faire du piano, ou c'était normal ?
Non, pour moi, c'était vraiment normal. Je ne me suis jamais posé la question, est-ce que je veux faire du piano, oui ou non ? Pour moi, c'était un peu une évidence. On avait un piano à la maison. Et voilà, le fait que je rencontre ma professeure, ça a vraiment eu un fort impact.
Bien sûr, ça vous a motivé à continuer en tous les cas.
Exactement, exactement.
Est-ce que vous pouvez éventuellement décrire vos premières sensations du piano ? Je pense que c'est difficile de ne pas s'en souvenir.
Oui, alors je me souviens très bien, parce que donc, ce piano qui était chez mes parents depuis que, enfin, j'ai toujours vu là. Je me souviens très bien le jour où j'ai découvert la pédale qui permet de faire résonner les sons. Je devais pas être très grande parce que c'était justement le moment où je pouvais réussir à toucher la pédale avec mon pied en étant assise. Ouais. Ou peut-être même que j'étais debout, je sais plus exactement. Et ça m'avait vraiment paru fabuleux. Et je me souviens très bien que ma mère rentrait, elle était sortie peut-être faire des courses, je ne sais plus exactement pourquoi. Et je lui avais dit, mais maman, viens voir, j'ai découvert quelque chose d'absolument extraordinaire sur ce piano. Et pour mes parents, c'était complètement normal, en fait. Oui. Donc voilà, ça c'est un de mes premiers souvenirs.
Non, mais c'est très, très intéressant. En plus, aujourd'hui, vous, évidemment, tout le monde le sait ou le voit parfois de la tribune, vous jouez aussi avec vos pieds énormément.
Voilà, alors donc, c'est vrai que l'orgue, c'est encore un autre instrument où, peut-être je vais le décrire parce que comme on est à la radio et que...
Bah,
et
puis, oui, non, mais on va y revenir tout à l'heure, je ne vais pas vous lâcher dans l'enfance là pour l'instant.
D'accord.
Et bien sûr qu'on va y revenir. Et pour aller vite un petit peu, donc je ne vais pas vous demander de raconter toutes vos histoires de conservatoire, mais peut-être d'essayer de dire à nos auditeurs et à moi-même et aux techniciens le moment du passage du piano à l'orgue. Je ne dis pas que vous avez abandonné le piano pour totalement hein, dans la pratique. Mais voilà, comment s'est fait ce passage et éventuellement à quel âge il s'est fait ?
Oui, alors je vais peut-être raconter un peu cette histoire à reculons. Oui. C'est vrai qu'aujourd'hui, je fais quasiment que de l'orgue. Et je pense que c'est aussi parce que j'aime beaucoup accompagner des chœurs et jouer avec d'autres instrumentistes. Voilà, faire un récital d'orgue seul, c'est vrai que bon, j'aime bien en faire, mais voilà, je préfère vraiment jouer avec d'autres musiciens. Et comme voilà, avant j'étais pianiste accompagnatrice aussi, pour moi ce lien est très important. Et en fait, du coup, le passage de l'accompagnement au piano à l'orgue, c'est un peu fait par ce biais-là.
D'accord.
Et sinon, vraiment, voilà, pour raconter...
Vous avez eu envie de faire ça ou c'était une opportunité de changer d'instrument, du coup ?
Alors, bon, c'était ma mère qui m'a inscrite au conservatoire en orgue sans trop me demander mon avis.
Ah, ça, c'est important quand même.
Voilà. Au début, j'étais pas... Enfin, je pense que j'avais peut-être 14 ans, 15 ans. C'était pas forcément l'âge où j'avais très très envie de faire de l'orgue. En plus, c'était un instrument que je connaissais pas trop, qui était beaucoup. J'avais, je pense, comme beaucoup de personnes, l'image de l'orgue où on joue juste pour une cérémonie religieuse et on ne fait que ça. Alors qu'en fait, il y a énormément de choses à faire à côté, voilà, en plus. Et du coup, oui, au début, je travaillais pas trop. Et en fait, c'est vraiment quand j'ai rencontré Éric Lebrun. Voilà. Au conservatoire de Saint-Maur. Alors, j'ai eu d'autres professeurs avant qui étaient bien sûr très bien, mais c'est vrai que la rencontre avec Éric Lebrun a été pour moi décisive. Parce que aussi, ça correspond avec la période avec laquelle j'ai commencé à faire des concerts d'orgue. Et vraiment, le fait de voir des instruments, en fait, c'est là que je me suis rendu compte de la richesse de l'orgue, de toutes les possibilités, de tout ce qu'on pouvait faire avec cet instrument.
Très bien.
Et c'est là que j'ai vraiment commencé à aimer l'orgue.
Et peut-être que là, on va écouter justement un des deux morceaux de votre choix, d'Éric Lebrun, justement. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'on va écouter ? Et après, on reviendra un petit peu sur le pourquoi de ce choix-là.
Oui. Alors, c'est pas une pièce d'Éric Lebrun, c'est une pièce jouée par Éric Lebrun.
Hein. Oui.
Mais c'est une pièce de César Franck. Donc, il s'agit du troisième choral en la mineur de César Franck.
Très bien, nous allons l'écouter. Qu'on va reprendre, c'est bon. Eh bien, oui, vous avez entendu sans doute ma voix avant le top. Donc, c'est Parcours Culturel, une émission de Fréquence Protestante. Et aujourd'hui, je suis Robert Filboussi et je reçois Fanny Cousseau qui nous parle de son art et des choses qu'elle fait. Nous l'avons laissée autour d'un piano. Bien avant, elle était juchée debout sur la pédale du piano qu'elle découvrait à 8 ans. Puis elle a commencé vraiment à découvrir ses instruments, des professeurs qui l'ont enthousiasmée, aussi bien de solfège que de piano. Et puis un jour, on l'a rencontrée, elle s'est retrouvée en train de prendre l'orgue comme instrument. Elle a rencontré un professeur qui s'appelle Éric Lebrun. Donc, nous venons d'écouter un morceau, mais parlez-nous un peu peut-être de ce morceau et aussi de ce que fait Éric Lebrun finalement.
Oui. Alors donc, j'ai choisi cette pièce de César Franck parce que cette année, nous fêterons le bicentenaire de la naissance de César Franck. Mmh. Et alors ça, j'en parlerai peut-être après, mais pour un des concerts où je m'occupe de l'organisation, je prévois un concert dédié autour des œuvres de César Franck. Donc voilà, c'était pour faire un petit rappel. Mmh. Et alors sinon, Éric Lebrun…
Oui, il vous a accompagné. Il était votre professeur, c'est ça?
Voilà.
Il ne l'est plus aujourd'hui?
Non, non. Non, non, mais je suis toujours en contact avec lui. Donc, Éric Lebrun, c'est aussi un compositeur, un super compositeur. Voilà, je vous invite à écouter sa musique si vous ne la connaissez pas. Mmh. Il a aussi écrit un livre très intéressant autour de César Franck, qu'il a publié récemment. Enfin, voilà, ses activités sont assez variées, assez riches. Et je pense que c'est aussi… Voilà, ce foisonnement de choses qu'il faisait qu'il fait toujours autour de la musique, en plus de la musique, qui m'ont vraiment touchée lorsque je l'ai rencontré.
Quand on vous entend, et donc là, pour ceux qui ne sont pas du tout spécialistes de l'orgue, ou qui le connaissent peut-être en allant au temple, et encore, ils ne savent pas les distinctions peut-être qu'il y a entre tous les orgues, ils apprennent que Éric Lebrun est un compositeur de musique d'orgue. Voilà. Ce qui veut dire que l'orgue a encore des compositeurs aujourd'hui et que la musique d'orgue est une musique contemporaine.
Oui, complètement. Alors, Éric Lebrun n'a pas écrit que pour orgue. Hein.
D'accord.
Mais oui, effectivement. Alors, l'orgue, c'est un instrument qui a une histoire extrêmement riche, qui s'étale sur une période extrêmement longue. Et actuellement, il y a toujours de nombreux compositeurs qui écrivent pour orgue. Je peux en citer plein.
Oui, mais si, peut-être pas plein, mais quelques-uns. Oui.
Il y a par exemple Valérie Aubertin qui compose de très belles pièces. Je pense qu'un des compositeurs pour orgue les plus connus, c'est peut-être Thierry Eskech, puisque c'est également il improvise beaucoup et il écrit aussi pour d'autres formations, pas que pour orgue. Donc, vraiment, le répertoire de l'orgue est très riche.
Et c'est ce qui vous intéresse, vous aussi?
Oui.
Dans votre… Là, donc, vous avez fait le Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon.
Voilà, exactement. Donc, une fois que j'étais avec Éric Lebrun, il m'a préparé au concours d'entrée du CNSM de Lyon. Et je suis rentrée, j'ai été acceptée. Et puis, depuis, j'habite à Lyon. Voilà.
D'accord. Et donc vous faites des concerts et alors je suppose on fait des concerts, mais est-ce que c'est vous qui choisissez tout le temps votre répertoire ou vous vous inscrivez? Est-ce qu'on va vous chercher vous ou on va chercher l'auteur de la musique?
Ça dépend. Oui. Alors souvent quand on m'appelle, si on me dit c'est soit un récital d'orgue soit or plus un autre instrument, la plupart du temps, je suis libre sur le programme, même si on peut parfois me proposer une thématique. Mmh. Après, quand c'est des concerts avec orchestre, là, souvent, le programme est déjà déterminé et on me demande, est-ce que je veux bien faire la partie d'orgue dans telle pièce avec tel orchestre.
Très bien. Donc vous, les évidemment, qui dit orgue dit église. Donc je suppose que vous en avez fréquenté pas mal.
Oui.
Et qui dit orgue aussi dit orgue évidemment au pluriel, comme on le sait, mais pas uniquement parce que c'est le fameux pluriel qui déconcerte parfois ceux qui aiment la syntaxe et l'orthographe, oui. Mais aussi parce que il y a des orgues différentes. Donc, par exemple, je sais qu'à Port-Royal, Quartier Latin, où de temps en temps, régulièrement, vous accompagnez le culte, c'est un orgue de type baroque.
D'après ce que j'ai pu comprendre. On peut jouer effectivement un répertoire qui va après la musique baroque. C'est vrai qu'il y a un léger tempérament. Alors, je vais peut-être juste expliquer ce qu'est.
Oui, très bien. Allez-y, on est là pour ça.
Voilà, donc un tempérament, c'est la manière d'accorder l'orgue. Et pour jouer des fois certaines musiques, il faut accorder l'orgue de telle ou telle manière. Alors, bien sûr, si l'orgue n'est pas accordé de cette façon, on peut toujours jouer la pièce, mais certaines notes ne sonneront pas de la même manière. Donc voilà, si on joue une pièce, la même pièce, sur deux orgues avec des tempéraments différents, le résultat final sera complètement
différent.
Voilà, complètement différent. Oui, donc je disais que sur l'orgue de Port-Royal, il y a un léger tempérament, mais on n'est pas obligé de jouer que de la musique baroque. Hein. J'ai joué des pièces bien plus tardives, voire même de la musique contemporaine.
Oui.
Et ça fonctionne bien sur cet orgue.
Est-ce que je peux poser je vais jamais dire quel est votre musicien préféré ou quoi que ce soit, mais par contre, quel est votre type d'orgue préféré? Ça, j'ai le droit de poser la question, je pense.
Oui. Alors, j'ai pas vraiment de type d'orgue préféré. En fait, ça dépend de quelle musique j'ai envie de jouer.
Ok, bah bien sûr.
Et je sais que, en fait, j'ai un peu des périodes. Des fois, pendant, je sais pas, 6 mois, je vais avoir envie de jouer de la musique symphonique, de jouer du Vierne et du Vidor. Ensuite, je vais avoir envie de jouer du Bach et du Buxtehude. Ensuite, voilà, donc en fonction des envies que j'ai, il faut que je trouve un orgue qui correspond plus ou moins aux pièces que je veux jouer. Et après, ça peut être aussi un défi de jouer des pièces qui sont pas forcément écrites pour l'orgue. Mais de s'adapter un petit peu.
Pour ceux qui assistent à certains concerts d'orgue ou qui vont à la messe ou au culte, en général, ils ne voient pas l'organiste. Ils regardent plutôt la personne qui est devant, qui a la scénographie du culte, et ils entendent le musicien qu'ils ne voient pas. Contrairement à d'autres instruments, comme un pianiste, par exemple, qui voit le public, comment vous arrivez à le mot qui me vient, c'est un mot qui n'est pas bien, mais comment vous dealez la connexion avec un public? Parce que vous faites des concerts, c'est quand même important. Comment vous le ressentez? Est-ce que vous allez voir les gens avant? Est-ce que vous regardez les gens avant de monter à la tribune? Est-ce que vous les voyez après? Vous les ressentez? Comment vous faites?
Alors déjà, la manière dans laquelle je vais réagir dépend du contexte dans lequel je suis. C'est-à-dire que si c'est pour un culte, ça ne me gêne pas forcément de ne pas avoir de contact direct avec le public. Et le fait qu'on ne me voit pas ne me gêne pas du tout.
Voilà, c'est vrai que dans un culte, ce n'est pas un public. On va dire que c'est une audience, voilà. Mais qui n'est pas là que pour écouter de la musique.
Exactement, exactement. On est là pour servir et accompagner la liturgie. En revanche... Pendant un concert, c'est vrai que j'essaye d'avoir le plus de liens possible avec le public. Si je peux, j'essaye de parler au public, au moins de dire un petit mot au début à la fin. Hein. Si c'est possible, encore une fois, parce que des fois, techniquement, c'est un peu compliqué. Mais si je peux présenter les pièces tout au long du concert, je le fais. Ensuite, il y a certains endroits où on a des tribunes qui peuvent se déplacer. Donc ça, c'est vrai qu'être devant le public comme un pianiste pourrait l'être, c'est vraiment super de réussir à créer ce contact, parce que voilà, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, sinon on est caché à la tribune, on est juché en haut, personne ne nous voit.
Oui, oui, parce que dans la pratique, il y a le praticien, et donc la musique, et c'est vrai qu'on a choisi l'orgue comme un instrument éthéré, dont on n'a pas envie de savoir la provenance, justement, parce que ça reste quand même un instrument théologique, avec tout ce souffle. La musique, c'est aussi un corps, une âme, un esprit. Donc, c'est bien que le corps du musicien puisse se connecter avec le reste. Donc, si j'ai bien compris, il y a des palliatifs. Évidemment, cette émission n'est pas finie, tout à fait, mais elle approche de sa fin, hein, peu à peu. Et vous avez une belle carrière. Vous donnez des concerts. Je sais que vous enseignez aussi. Je sais que vous accompagnez des liturgies. Mais vous avez d'autres. Vous avez plein de projets en fait. Et est-ce que vous pouvez en distinguer quelques-uns de tous ces projets?
Oui, bien sûr. Alors, les deux projets importants à venir, ce sont deux festivals. Un festival qui a lieu l'été et oui. Je parle de festival, mais ce n'est pas vraiment un festival puisque ça s'étale sur toute l'année. Il s'agit des musicales de Port-Royal.
D'accord.
Donc, ce sont des concerts qui ont lieu tous les deuxièmes dimanches du mois au Temple de Port-Royal à 18h.
Qui se situe 18 boulevard Arago dans le 13e arrondissement métro Gobelin.
Hein, voilà, exactement.
Comme ça, c'est fait.
Voilà. Et ces concerts ont lieu dans un cadre, j'espère, convivial. Et donc, chaque mois, on reçoit des musiciens.
Oui. Donc là, ce n'est pas de l'orgue exclusivement.
Non.
Que les gens comprennent bien, parce qu'on a beaucoup parlé d'orgue. Là, c'est de la musique en général.
Voilà.
Classique.
Oui. Oui, alors, pas que. Dans les éditions précédentes, on a eu quelques concerts de jazz. Mm-hmm. Là, on n'aura que 4 concerts pour cette période qui reprennent en mars, parce que voilà, à cause du Covid, et puis je suis partie aussi une année en Autriche, donc c'était un petit peu compliqué d'organiser tout ça à distance. Mmh. Mais voilà, donc les concerts reprennent en mars. On va accueillir un quatuor à cordes, le quatuor Confluence, qui jouera un programme avec un quatuor de Mozart et un quatuor de Bartok.
Et du coup, on va en écouter là maintenant, on va écouter quelque chose de ce quatuor maintenant, qui est le deuxième morceau que vous avez choisi. Donc, c'est le moment.
Oui, donc il s'agit d'un quatuor de Mozart, le 19e quatuor, en Do majeur Köchel 465, et je pense qu'on va écouter le début, le premier.
Le début, très bien, allons-y alors.
Thank you.
Voilà, la dernière partie avec Fanny Cousseau, c'est toujours Parcours culturel, une émission chapeautée par la Maison Fraternelle et l'Atelier Protestant. Nous recevons des gens qui ont la passion de leur art, des gens engagés dans leur pratique, qui donnent, qui font. Nous avons abordé les choses qui ont fait Fanny Cousseau, que nous recevons aujourd'hui, qui est musicienne. Et là, nous continuons sur ce qu'elle fait aujourd'hui, dans le précieux sens de faire pour donner quelque chose au monde, dans le sens de la création aussi, comme Dieu fit la terre et le ciel, créa la terre et le ciel. C'est pas rien, le faire. Donc moi, je le prends comme un beau mot. Nous parlions d'un de vos projets. Bon, on a dit que vous étiez organiste, que vous donniez des concerts, que vous enseignez, que vous avez une carrière, que vous accompagnez des cultes, mais vous avez aussi des projets de type festival. Là, nous parlions des musicales de Port-Royal, et qui est une programmation tout au long de l'année. Et là, ça va être 4 concerts parce que l'année a été un peu tronquée. Pas exclusivement de musique classique. Et moi, donc vous êtes directrice un peu de cette programmation, vous êtes directrice artistique, et comment vous faites pour choisir les œuvres, les musiciens? Est-ce que ce sont des hasards, des rencontres? Est-ce que vous avez le choix? Voilà, comment vous faites?
Oui.
Moi, ça me terrifierait un peu de faire ça, franchement.
Oui, moi aussi, parce que c'est toujours... difficile en tout cas de refuser certaines propositions, c'est je crois le plus difficile. On reçoit beaucoup de propositions, hein, et des fois c'est difficile de faire des choix. Après, moi j'ai aussi des fois des envies. Lorsque je vais à un concert, je peux un peu tomber amoureuse de certains musiciens, et du coup voilà, je me dis ces musiciens, j'aurais vraiment envie de les inviter au musical de Port-Royal pour que le public des musicales puisse profiter d'un moment musical avec ces artistes. Et voilà, l'extrait qu'on vient d'écouter a été joué par le quatuor Confluence, et c'est donc le quatuor que je recevrai en mars.
Alors, donc c'est le deuxième dimanche du mois, donc ce sera le 6, 7,
le 13 mars.
Le 13 mars
à 18h.
À 18h.
Voilà. Et donc je connaissais bien une des violonistes, Lorraine, oui, Campet, qui m'a proposé son projet de quatuor. Alors ce concert devait avoir lieu il y a un petit bout de temps, mais entre tous les reports de concerts dus aux conditions sanitaires, voilà, ça pas sans le savoir. Du coup, voilà, ce concert aura enfin lieu en mars.
Très bien. Donc on va le soutenir évidemment. Et donc je sais, bon, j'ai bien compris, il n'y a pas de jeu de mots là-dedans puisque c'est un instrument avant, mais vous avez de nombreuses cordes à votre arc. Je suis désolé de ce jeu de mots qui n'en est pas un, mais il sort de ma bouche comme un démon. Donc vous faites de la musique certes, mais vous êtes aussi organisatrice en fait. Et donc il n'y a pas que les musicales de Port-Royal.
J'ai
cru comprendre.
Il n'y a effectivement pas que les musicales de Port-Royal. Je suis aussi directrice artistique d'un festival, le festival Autour du Ventoux, qui se tient chaque été depuis 2017, dans les environs du Mont Ventoux. Alors cette année, le festival sera enrichi grâce à Karine Notiek et l'ensemble Calliope, et on va réussir à organiser une académie jeunes talents. C'est-à-dire qu'on va recevoir une quinzaine de jeunes talents, donc ils sont tous issus des conservatoires supérieurs, hein, donc soit Paris, Lyon, Londres, peut-être les États-Unis s'il n'y a pas de problème encore de Covid. Voilà, on verra. Mmh. Et donc, on accueille pendant une semaine tous ces musiciens qui sont encadrés et qui jouent avec nos professeurs encadrants. Et ça donne lieu à des rencontres musicales, à des concerts, à des moments d'échange, de partage. On ne veut pas juste faire des concerts et qu'il n'y ait aucune rencontre avec le public. Donc c'est pour ça qu'on organise des ateliers où les enfants peuvent venir et prendre un accordéon dans leurs mains, toucher un alto, souffler dans une clarinette pour vraiment qu'ils se rendent compte et créer un lien entre les musiciens et le public.
Ce que j'avais remarqué dans les rencontres qui ont précédé cette émission, c'est que vous êtes très, non pas interdisciplinaire, parce que vous faites de la musique, mais vous aimez bien ce qui est transversal, c'est-à-dire la musique, c'est un concert, c'est un événement, mais il y a aussi les gens, voilà, vous parliez d'ateliers pour les enfants, vous pourrez faire appel aussi à d'autres formes de créativité, vous avez évoqué, pourquoi pas, des moments de lecture ou du théâtre, donc j'ai l'impression que vous êtes, c'est assez multiple votre désir de faire des choses.
Oui, alors ça, c'est un peu souvent une caractéristique des organistes.
Ah bon?
Parce que, oui, souvent les organistes organisent des concerts, c'est pas rare. Hein. Je pense que si on fait une sociologie des directeurs de conservatoire, il y a quand même pas mal d'organistes. Donc, voilà, et puis, non, c'est vraiment quelque chose qui...
Ah, ça, c'est très intéressant ce que vous me dites. Je vais regarder parmi les gens que je connais qui sont directeurs des conservatoires. C'est vrai que je ne connais pas beaucoup, mais j'aimerais bien qu'ils jouent de l'orgue, en tout cas.
Oui.
Mais pas exclusivement, lui, en l'occurrence. Oui. Je parle du 12e arrondissement, il se reconnaîtra peut-être. Donc, très très bien, ça, c'est, j'apprends quelque chose. Il y a une sociologie des musiciens. Ah oui, bah ça, on dit ça aussi quand on est à l'extérieur. On dit les violonistes sont ci, les pianistes sont ceux-là, les altos
oui,
sont machin.
Peu, voilà, des a priori.
Ça, on peut pas en parler parce que vous allez vous fâcher ou avec tout le monde. Vous pas
oui,
dire.
Non, après, bon, c'est un peu connu que les cuivres aiment bien boire un coup et que bah, nous, les organistes, on a quand même un peu une réputation de personne qui ne sort pas de son église, qui est tout blanc parce qu'on ne prend pas le soleil. Et...
Ah oui, vous avez un peu voilà. D'étoiles d'araignée, etc. Et puis vous sortez du Moyen-Âge.
Exactement.
Plus ou moins, enfin un peu après. Ouais, voilà. D'accord.
On voit. Mais je trouve que c'est important justement d'essayer de changer cette image.
Parce en tout cas, votre voix le fait déjà, est en train de changer l'image.
Bon, bah, tant mieux si ça marche. Mais...
oui, parce que... des jeunes conservatoires vont spontanément à l'orgue aujourd'hui. Ils se disent, tiens, je veux faire de l'orgue. Ou alors, il faut vraiment qu'ils découvrent comme vous, un peu par accident, finalement.
Oui. Les profils pour faire de l'orgue sont assez variés. Hein. Il y a des personnes qui ont été amenées, sont venues écouter des messes ou des cultes en étant petits et qui ont été fascinées par cet instrument, qui ont voulu monter à la tribune, etc. D'autres personnes ont commencé l'orgue plutôt par le biais du conservatoire. Voilà, les profils sont vraiment multiples et c'est un peu comme les profils des personnes qui viennent écouter les concerts. Hein. Mmh. En fait, on a souvent l'a priori que les personnes qui viennent écouter des concerts de musique classique sont des personnes âgées et issues de la catégorie supérieure. Mais en fait, pas que.
Oui.
Il y a aussi une diversité au sein de ce public, une diversité qui est peut-être même plus grande que, je ne sais pas, dans un concert de rap où on pourrait trouver vraiment que des personnes de tel âge à tel âge, peut-être même issues d'une ville en particulier.
Bien sûr, oui, etc. Je vois ce que vous voulez dire.
Et alors, bah, j'en profite pour juste
allez-y,
faire un petit point. C'était un souhait qui nous... Enfin, amener du nouveau public, amener des gens à découvrir la musique, c'était un souhait très fort au musical de Port-Royal. Mmh. Et du coup, voilà, je précise que l'entrée des musicales de Port-Royal se fait sur un prix libre. Parce que, en fait, ça c'est une question qui nous a... sur lequel on s'est penché pendant très longtemps. On a étudié plein de possibilités en essayant de trouver un tarif le plus juste possible. Et puis, en fait, on s'est dit, en fait, il n'y a pas de tarif juste. Donc, voilà. Les personnes qui souhaiteront venir en mars, voilà, on explique à l'entrée un peu notre démarche de valoriser la musique et de promouvoir cet art. Et on laisse la possibilité aux gens de donner ce qu'ils veulent et ce qu'ils peuvent.
Voilà. Avec une suggestion de tarif. Mais c'est vrai que quand on voit la qualité, quand on entend la qualité de ce que vous proposez, parce que je l'ai déjà entendu quelques fois au préalable, avant le Covid et avant votre départ à Vienne, et ce qui... Je trouve que ça les vaut, franchement. C'est... Quand on voit la passion que vous mettez dans la programmation aussi, donc je pense que c'est pas mal. C'est un peu couper la poire en deux, entre billetterie et prix totalement libre. Mais c'est une suggestion de tarif, c'est pas mal, je trouve, comme idée. Nous allons peu à peu terminer. Il nous reste 3 minutes, à vrai dire. Nous avons abordé votre enfance, votre programmation, on va dire, neurolinguistique et musicale. On a vu votre parcours, on a vu vos projets actuels. Est-ce que vous pouvez dire quelque chose de vos projets, votre anticipation de projets éventuellement futurs ?
Oui. Ah bah alors déjà, les deux festivals que j'organise prennent beaucoup de temps. Mmh. Hein. Là, on est en plein dans la réflexion. Enfin, on réfléchit à comment est-ce qu'on va organiser le festival de cet été. On invite un compositeur en résidence, donc on va lui commander des pièces, tout ça. Voilà, c'est un gros travail en amont. Sinon aussi, j'ai d'autres projets de concert. Je réfléchis peut-être, pourquoi pas, mais ça, ce sera dans plusieurs années, à avoir un orgue qui se transporte pour vraiment aller à la rencontre des publics. Mmh. Mais voilà, ça, c'est pas pour tout de suite, parce qu'entre le moment où on a cette idée et le moment où l'orgue est construit, ça...
Oui, en plus, on m'a dit que c'était extrêmement cher, cette histoire d'orgue qui se transporte. Voilà. Et qu'il ne fallait pas le regarder parce que c'était très fragile. Je me souviens parce que je l'ai vu quelques fois dans les temples arriver. Mais donc vous voulez mettre votre orgue sous le bras et partir à la rencontre des gens.
Alors oui, alors il y a déjà des instruments qui existent comme ça. Hein. L'orgue du voyage de Jean-Baptiste Monod, où Yves Rechtsteiner est en train de construire un orgue de ce type. Alors moi, ce que je voudrais faire, c'est... voilà. Pas un orgue positif, pas un tout petit orgue où il n'y a pas de son grave, c'est un vrai orgue avec des sons graves qui se transportent. Et le défi est là.
Ok, très bien.
Voilà.
Une toute dernière question avant de faire cette conclusion. D'abord, quel aurait été votre autre instrument à part l'orgue ? Parce que visiblement, ce n'est pas le piano.
Alors si, j'aime beaucoup le piano et je... la vie a fait que je me suis plutôt mise à l'orgue. J'aimerais bien peut-être commencer un instrument avant et faire du jazz.
Faire du jazz.
Voilà, j'avais pris quelques cours de piano jazz, ça m'avait beaucoup plu. Et puis bon, c'était un petit peu compliqué de continuer. Et c'est vrai que ouais, un instrument avant avec du jazz, ça me plairait bien.
Bien voilà, donc voilà, c'était Fanny Cousseau qui a heureusement accepté mon invitation à venir participer à l'émission Parcours culturel, qui nous a parlé de ses projets. Merci beaucoup Fanny, franchement, c'était vraiment bien de faire ce petit parcours avec vous et d'avoir égayé cette émission et l'avoir transformée en désir de passion. Bien, ben moi, en tout cas, Robert Philippoussi, je tente de vous retrouver tous les premiers samedis du mois à 16h15. Évidemment, cette émission est diffusée en direct, mais elle est amplement rediffusée sur le canal de Fréquence Protestante, fréquenceprotestante.com sur Internet, et bien sûr, le chiffre FM habituel 100.7, si je ne m'abuse. À très bientôt. Merci beaucoup. I